Radio Prague, émission en langue française. Madame, monsieur, merci d'être avec nous. Voici pour commencer un bulletin d'information qui vous sera présenté par Václav Richter. Un débat houleux a précédé le vote de confiance dans l'après-midi de ce vendredi, initié à la Chambre des députés tchèques par le Parti civique démocrate, ODS, principale formation de l'opposition. Le cabinet Stanislav Gross a obtenu la confiance de la Chambre. 78 députés ont voté pour son maintien, 76 ont été contre, 44 se sont abstenus. Ce résultat positif pour le cabinet en place a été dû surtout aux députés communistes, dont les abstentions ont été décisives pour le maintien du cabinet Stanislav Gross. À l'issue du vote, le président de la République tchèque, Václav Klaus, a appelé le Premier ministre à lui donner la promesse de demander de nouveau à la Chambre un vote de confiance pour le gouvernement après la reconstruction de celui-ci. Selon le Premier ministre Stanislav Gross, cependant, cet appel du président de la République dépasse les compétences que la Constitution tchèque réserve au chef de l'État. Plusieurs ministres tchèques actuels envisagent cependant de quitter le cabinet sauvé par les communistes. Il s'agit notamment du ministre de la Législation Jaroslav Bureš et du ministre de l'Informatique Vladimir Mlynář. La ministre de l'Éducation nationale Petra Buzková prendra une décision sur son éventuel départ après une consultation la semaine prochaine avec le Premier ministre. Et les ministres des Finances Bohuslav Sobotka, de l'Industrie et du Commerce Milan Urban et de la Culture Pavel Dostal resteront au gouvernement à condition que celui-ci ne fasse pas de concessions aux communistes. C'est par des rassemblements et des prières collectives que les chrétiens moraves ont réagi à l'aggravation de l'état de santé du pape Jean-Paul II. De même, le cardinal Miroslav Vlk, primat de l'Église catholique tchèque, qui se trouve en ce moment à l'étranger, a appelé les fidèles à prier pour la santé du pape. Dans le cadre du festival du film, de la télévision et de la vidéo Fabiofest, qui se poursuit dans la capitale tchèque, le public aura la possibilité de voir, entre autres, une série de projections intitulée « L'histoire nationale vue par les yeux des cinéastes tchèques ». Les projections ont lieu tous les après-midi pendant le festival au Musée national de Prague. L'entrée est libre. Météo, ce vendredi, fête de tous les Hugo, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été clair et les températures diurnes se sont situées entre 9 et 13 degrés. Samedi, le temps en République tchèque sera clair et les températures diurnes s'échelonneront de 11 à 15 degrés. C'était les informations de Radio Prague. Merci de les avoir suivies.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bienvenue à l'écoute. L'actualité tchèque, c'est le vote de confiance au gouvernement Gross. Nous vous rapprocherons son déroulement dramatique ce vendredi à la Chambre des députés. Il sera question également de la nuit Andersen dans notre pays. Très bonne écoute à tous. Le gouvernement Stanislav Gross a survécu au vote d'une motion de censure. Parmi les 198 députés présents à la Chambre, 78 ont voté pour le maintien du cabinet, 76 contre et 44 se sont abstenus. Pour que le cabinet tombe, il aurait fallu 101 voix. Le cabinet du Premier ministre Gross a donc obtenu la confiance et continue d'exister, même s'il est difficile de parler d'un cabinet de coalition, puisque 3 ministres chrétiens-démocrates ont donné leur démission et 4 à 5 autres pèsent leur présence dans un cabinet qui n'a obtenu la confiance que grâce à l'abstention des députés communistes. Il s'agit des ministres de l'Éducation, de l'Informatique, de la Culture, de l'Industrie et du Commerce et celui chargé de la législation. La session clé à la Chambre des députés a été ouverte à 9h du matin. Un débat émotif, dramatique et très personnel a précédé le vote de la motion de censure. Le Parti civique démocrate l'a initié à cause des circonstances douteuses autour de l'achat de l'appartement privé de Stanislav Gross et des activités commerciales de son épouse menées avec une amie inculpée de fraude fiscale et propriétaire d'une maison close. Révélées par les médias en début d'année, ces affaires ont provoqué une crise gouvernementale. Miroslav Kalousek, chef de l'Union chrétien-démocrate KDU, l'un des trois partis de la coalition, a invité Stanislav Gross à quitter la tête du cabinet pour que celui-ci puisse continuer son mandat jusqu'aux élections législatives de 2006, mais avec un autre chef plus crédible. La cote de popularité de Stanislav Gross, récemment encore homme politique préféré des Tchèques, a radicalement baissé. Dans les derniers sondages, il ne bénéficiait que de 18% d'opinion favorable. Stanislav Gross a pourtant refusé de quitter son poste. Il a présenté ses excuses aux citoyens et annoncé que son épouse arrêterait ses activités commerciales. Lors du congrès de la social-démocratie le week-end dernier, il a été réélu chef du parti, ce qui a paradoxalement aggravé la situation. À l'issue du vote de la motion de censure, le chef du groupe des députés du Parti civique démocrate, Vlastimil Tlustý, a réagi avec ces mots à son résultat.
Le gouvernement qui, lors des élections législatives de juin 2002, a obtenu son mandat sur la base d'une majorité à 101 voix à la Chambre des députés, l'a définitivement perdu par ce vote. Ce gouvernement a survécu grâce aux 44 députés communistes qui, en s'abstenant de voter, ont estimé que ce gouvernement devrait continuer d'exister. Autrement dit, les communistes ont soutenu Stanislav Gross à la tête du gouvernement, ils l'ont pris en otage.
Le chef du parti chrétien-démocrate Miroslav Kalousek, qui depuis plusieurs semaines réclamait la démission de Stanislav Gross, a déclaré ceci après le vote à la Chambre.
J'ai informé jeudi le président de la République, Václav Klaus, et nos partenaires de la coalition de la décision du Parti chrétien-démocrate d'abandonner le traité de coalition. Les ministres chrétiens-démocrates ont donné leur démission et ce vendredi, les députés chrétiens-démocrates n'ont pas soutenu le cabinet Gross.
Dans une telle situation, ce sont donc les députés communistes qui ont fait pencher la balance. Le comité exécutif a recommandé aux députés de s'abstenir de voter. Le chef du parti, Miroslav Grebeníček, a sévèrement critiqué le travail de la coalition gouvernementale, notamment sa politique antisociale et l'absence de loi sur les déclarations d'impôts sur la fortune, en déclarant qu'il avait trahi les valeurs de gauche.
Le vainqueur des élections a créé un cabinet de coalition non pas pour réaliser son programme électoral, mais pour ne pas devoir accomplir ses promesses électorales.
Grebeníček a expliqué que si le parti communiste s'était abstenu de voter, c'était parce qu'il ne voulait pas prolonger à l'infini la crise constitutionnelle. Dans son discours, Stanislav Gross a souligné qu'en dépit du départ des chrétiens-démocrates, le cabinet n'abandonnerait pas la réalisation du programme électoral. Il a manifesté une certaine ouverture à l'égard du Parti communiste en déclarant qu'il ne reculait pas devant un parti élu par les électeurs.
Je ne veux pas conduire un gouvernement qui abandonnerait les principes de programme sur lesquels il est né et je déclare clairement que je n'ai prié personne de soutenir ce gouvernement. Tant que j'ai eu des négociations avec des leaders de parti, je les ai menées au travers de l'éventail politique, ce que les partenaires dans ces négociations peuvent confirmer.
Le gouvernement actuel a un sens pour continuer à estimer Gross. En s'appuyant sur quelques indices économiques, la croissance la plus forte de ces 7 dernières années, un faible taux d'inflation et en énumérant les tâches qu'il veut terminer et qui doivent améliorer la situation dans le domaine social, la diminution des impôts, l'adoption de la loi sur l'incompatibilité des intérêts et une réforme raisonnable des loyers. Changeons de thème, voici maintenant la suite de l'entretien que Jean-Marie Pelletier, magistrat de liaison au ministère de la Justice de la République tchèque, a accordé la semaine dernière à Radio Prague. Le gouvernement a en effet approuvé mercredi dernier la proposition de se joindre aux 118 États qui ont déjà signé la Convention de l'ONU pour la lutte contre la corruption ouverte à la ratification depuis décembre 2003. Anna Kubišta.
Quel est, selon vous, l'état justement de la corruption en République tchèque par rapport à l'index qui a été publié en octobre 2004 par Transparency International?
Alors ça, c'est une question évidemment à laquelle il est très très difficile de répondre. Alors l'avantage, c'est que la corruption aujourd'hui n'est pas simplement quelque chose qui est discuté dans le secret de quelques bureaux. Avec des organisations non gouvernementales comme Transparency International, avec l'émergence d'instruments internationaux comme cette Convention des Nations Unies, on met sur la table les efforts que font les uns et les autres et puis les mesures. Je sais évidemment comme vous que le classement de la République tchèque dans ce rapport de Transparency International n'est certainement pas réjouissant, il n'est pas non plus catastrophique. Ce qu'il y a d'important, c'est que ces classements servent d'indicateurs, de marge de progrès. Je sais d'ailleurs que ce classement s'est déjà depuis octobre 2004, légèrement amélioré. Et ce sont des incitations et des incitations comparatives qui nous concernent tous.
Est-ce que vous pensez que, justement, en République tchèque, il y a une vraie volonté politique de lutter contre la corruption?
Alors, moi, je le crois. Pour moi, c'est une volonté qui traverse plusieurs gouvernements. L'existence de cette volonté politique, on en sait quelque chose dans l'histoire récente d'autres États membres ou d'autres États du monde. Ça ne veut pas dire qu'une volonté politique, même clairement exprimée, suffise à faire disparaître tous les comportements déviants ou critiquables. Mais je le crois, si je me souviens des efforts annoncés et faits en République tchèque avant l'entrée dans l'Union européenne, je me souviens par exemple que Transparency International, en 2000 ou 2001, je ne me rappelle plus exactement, avait tenu son congrès international ici à Prague et qu'il y avait eu à cette occasion de grandes manifestations que le Premier ministre tchèque de l'époque, M. Zeman, avait participé aux travaux de Transparency International. Il avait engagé quand même la parole de l'État tchèque à ce moment-là au plus haut niveau et je crois que Cette volonté ne s'est pas depuis démentie en termes de volonté politique.
Les habits neufs de l'empereur, le vilain petit canard, la princesse au petit pois, la reine des neiges. Les contes de Hans Christian Andersen séduisent depuis plus d'un siècle les lecteurs sur toute la planète, y compris les Tchèques. L'auteur danois est mis à l'honneur un peu partout dans le pays dès la nuit du 1er au 2 avril, le jour de son 200e anniversaire. Le programme du festival Andersen en République tchèque avec Magdalena Segertova.
La nuit Andersen réunit dans les espaces des bibliothèques tchèques et moraves des enfants et adolescents qui aiment l'imagination débordante d'Andersen et la littérature tout court. Accompagnés de leurs parents, les jeunes se lancent dans des jeux, des concours littéraires, rencontrent des écrivains et des comédiens qui leur lisent des extraits de livres, s'amusent, on joue de la musique et du théâtre, on danse. Et tout cela en rapport avec la littérature. Marquée cette année par le bicentenaire de l'écrivain, la nuit Andersen n'est pourtant pas une nouveauté en Tchéquie. Šárka Fridlová de la bibliothèque de la radio tchèque, qui participe elle aussi à l'événement, explique.
Noc Andersenem vymysleli knihovnice v Uherském Hradišti, naše kolegyně.
La première nuit Andersen a eu lieu il y a 5 ans à la bibliothèque d'Uherské Hradiště en Moravie du Sud sur l'initiative de son équipe. Successivement, les bibliothèques de tout le pays se sont jointes à cette manifestation. Cette année, elles sont presque 400 à l'organiser dans la nuit du 1er au 2 avril. Et pour la première fois, la manifestation s'élargit à d'autres pays, la Slovaquie, la Pologne et l'Autriche. Notre bibliothèque est un peu spécifique, nous ne pouvons pas ouvrir les portes au large public, mais seulement aux enfants des employés de la radio tchèque. Aussi, nous participons de cette manière aux émissions spéciales de la radio, consacrées à Andersen, puisque la nuit Andersen est diffusée en direct sur l'antenne.
a dojmy dětí.
Présenter le Danois le plus connu mondialement comme une personnalité complexe, avec tous ses désirs et passions. Tel est l'objectif du festival Andersen, étalé sur toute l'année et mis en place par le théâtre pragois Archa. À son affiche, des spectacles inspirés des fameux contes d'Andersen, interprétés par le mage canadien Robert Lepage, le trio londonien Tigger Lilies, ou un théâtre de marionnettes de Meiningen en Allemagne. Le théâtre Archa sera, lui, dès le début avril, en tournée en République tchèque avec une création spécialement produite pour l'occasion. La troupe la présentera notamment dans des camps de réfugiés et des foyers pour enfants en République tchèque.
Des peines exceptionnelles ont été prononcées à l'encontre de deux hommes reconnus coupables de l'assassinat d'un prêtre catholique de 78 ans. Rudolf Samko, 26 ans, a été condamné à 17 ans de prison. Son complice, dont l'identité n'a pas été révélée puisqu'il s'agit d'un mineur de 17 ans, devant lui passer 8 ans et demi derrière les barreaux. Le tribunal est parvenu à la conclusion que c'est ce dernier, âgé de 15 ans au moment du meurtre, qui a été le principal initiateur de l'assassinat, motivé par un vol. Le jeune homme venait régulièrement à l'église et était au courant de l'argent déposé dans un coffre-fort. Le 11 septembre 2003, les deux complices ont pénétré dans l'église pour le voler, mais le prêtre les a surpris. Ils l'ont tué et incendié l'église pour effacer les traces. Selon les médecins, l'attaque a été particulièrement brutale et le prêtre a souffert de douleurs cruelles avant de mourir. Le crime est d'autant plus atroce que le prêtre donnait régulièrement de l'argent à son futur assassin. Il était connu par son extrême bonté, sa compréhension pour les jeunes problématiques et sa main tendue à tous ceux qui avaient besoin d'une aide. Les auteurs du crime ont volé au prêtre 40 000 couronnes, 620 euros, plus 6 dollars américains réunis par lui pour les réparations de l'église. Le jeune délinquant sera mis dans une maison de détention pour mineurs qu'il pourra quitter au plus tard à l'âge de 19 ans, donc d'ici 2 ans. Fin de ces faits événements, mais restez avec nous pour la suite de l'émission sur Radio Prague.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur Radio Prague. Nous commençons cette rubrique économique avec les titres de Maine et Alena Gebertova.
Mercredi, environ 12 000 employés des usines du constructeur automobile Škoda ont manifesté pour protester contre la politique des salaires. Des négociations entre les dirigeants de l'entreprise, entrés dans le giron de Volkswagen, et les syndicats avaient préalablement échoué, ces derniers n'ayant obtenu qu'une indexation de leur salaire par rapport à l'inflation, alors qu'ils réclamaient une augmentation de 10%. La manifestation a été suivie d'une grève d'une heure. Le salaire mensuel moyen des salariés de Škoda Auto s'élève à 775 euros en 2004. Il est nettement supérieur au salaire moyen au niveau national, qui était l'an dernier de 600 euros. Selon les syndicalistes, il ne représente pourtant qu'un tiers du salaire moyen d'un employé de Volkswagen en Allemagne. En cas de non-satisfaction de leurs revendications, les syndicalistes de Škoda Auto sont déterminés à étendre leur mouvement jusqu'à une grève illimitée, selon leur président Jaromír Tvrček.
Le conseil bancaire de la Banque nationale tchèque a baissé jeudi dernier son principal taux d'intérêt directeur de 0,25 points à 2%. La CNB a ainsi supprimé l'écart de 0,5 points avec la Banque centrale européenne.
L'action de l'opérateur tchèque Český Telecom enregistrait une hausse de plus de 12% jeudi au lendemain de la recommandation de vendre au groupe espagnol Telefonica la part de son capital, 51,1% que possède l'État. L'offre de l'opérateur espagnol a été jugée la meilleure par une commission interministérielle tchèque chargée du dossier. Telefonica a offert plus de 82 milliards de couronnes. Les offres de Swisscom et Belgacom sont inférieures quant à l'enveloppe soumise par France Télécom et ses partenaires financiers. Elle n'a pas été ouverte. La décision finale appartient cependant au gouvernement et vu la situation politique dans le pays, l'avenir est encore très incertain.
On passe maintenant au thème principal de notre rubrique économique, à savoir la télévision numérique terrestre qui a été lancée cette semaine en France. La révolution technologique qui bouleverse progressivement le paysage audiovisuel en Europe est également en passe de se réaliser en République tchèque. Mais la transition est parfois difficile. 32 sociétés ont déposé une demande de licence pour la diffusion numérique de chaînes privées auprès du CSA local. En tout, cela représente 52 chaînes potentielles, certaines des sociétés ayant déposé plusieurs demandes. Les chaînes privées Nova et Prima sont sur les rangs et figurent naturellement parmi les favoris dans la course aux licences. La télévision publique a quant à elle monté deux projets, l'un de chaîne d'information en continu appelée CT24, l'autre de chaîne éducative CT4. En tout, 13 demandes de licence concernent des projets de chaînes Tout Info, dont Nova News, celle du groupe CET21, propriétaire de TV Nova. D'autres projets ont vu le jour, certains plus bancals que d'autres. Le propriétaire de la radio chrétienne Proglas a par exemple déposé une ébauche de télévision familiale positive qu'il a appelée Noé. Dans un autre genre, Ferro Fenich, directeur du festival de cinéma Febiofest, a mis sur pied un projet ambitieux de chaîne de documentaires. Seul problème, mais pas des moindres, le coût. Et les investisseurs sont d'autant plus difficiles à trouver que les nouvelles chaînes numériques ne pourront être rentables qu'après 2 ans selon des études, en raison de la faible couverture du territoire et du nombre peu élevé de foyers équipés. Le groupe français Lagardère, déjà propriétaire des stations de radio Frequenze Jedna et Europa 2, Europe 2, s'est lui aussi engagé dans la course à la télévision numérique terrestre en République tchèque. On écoute son représentant à Prague, Michel Fleischmann.
Nous sommes intéressés par la création d'une ou plusieurs chaînes. Nous avons déposé deux dossiers qui sont tout à fait dans la logique de notre existence ici en République tchèque, c'est-à-dire l'un des projets se repose sur notre connaissance et sur notre succès en ce qui concerne les radios musicales, et l'autre, il est aussi basé sur le succès et sur la formule que nous avons trouvée pour faire une radio généraliste à succès en République tchèque. Donc il y en a un qui s'appelle TE2, et il y en a un où il faudra probablement changer de nom à l'avenir parce qu'il s'appelle TF1. On est dans une situation un tout petit peu floue, dans le sens que le CSA local a lancé un appel d'offres où 32 sociétés se sont portées candidates avec 52 programmes, et nous n'avons toujours pas, à côté de cela, une loi sur les communications électroniques qui serait adaptée à cette nouvelle technologie et à cette nouvelle outil qui va quand même prendre le dessus dans les années à venir. Donc nous sommes un peu dans le flou. Au lieu de commencer par la loi et après faire un appel d'offres, ici on a fait un peu le contraire, donc c'est un peu en difficulté.
Le groupe Lagardère possède aussi le groupe de chaîne MCM, ce sera donc un peu un MCM tchèque ?
Ben, nous aimerions bien sûr de travailler en commun avec MCM pour déjà, parce qu'ils ont une expérience quand même de longue date, et c'est quand même une télévision qui marche bien. Donc nous avons intérêt à nous reposer sur leur savoir-faire, et pas seulement sur ce savoir-faire-là. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a Lagardère Images, qui est quand même un formidable stock de films, de documentaires, etc., etc. Donc nous avons de quoi nous reposer sur Lagardère pour pouvoir développer des télévisions digitales à succès en République tchèque.
Pas de Paris Match TV à Prague ?
Bah, Paris Match n'existe pas à Prague. Donc n'allons pas trop vite. Si l'occasion s'en présente et si on peut faire une télévision qui aurait des chances de réussite, pourquoi pas, Paris Match.
Le programme en langue française de Radio Prague Ondes Courtes se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000